premier objectif, le piano. Heureusement que c'est pas un obstacle, que c'est qu'un instrument. Vous voyez, on voit que ça dégringole très vite. L'enseignement philosophique. Quand la Sorbonne en France commence à reprendre Aristote, Fribourg pratiquement n'enseigne plus la philosophie aristotélicienne et thomiste. Et c'est très curieux de voir ça. C'est qu'au fond, l'Église est toujours en retard. Au moment où on reprend, parce qu'on est fatigué par ces philosophies qui ne signifient plus rien, on est fatigué, alors on revient à quelque chose de très sérieux. Aristote, Platon. Et l'Église veut toujours s'adapter, du moins l'Église, les gens d'Église, pas l'Église, les gens d'Église cherchent à s'adapter pour être au courant, tout proche. Et ils le font quand les autres sont déjà fatigués et reprennent plus profondément. C'est très curieux de voir ça, parce que si les hommes d'Église ne sont pas fidèles à la recherche de la vérité, qui peut seul aider le croyant, ce qui est un bavardage humain, ce qui est uniquement de l'homme, ne peut pas servir à la foi. Si ça sert à la foi, ça la diminue à la place de l'exalter. La théologie doit toujours être au service de la parole de Dieu. Et donc, de montrer que la parole de Dieu va plus loin que ma philosophie. Et ma philosophie peut cependant aider la révélation qui se transmet par la parole. Et le mode particulier de la révélation, c'est la parole de Dieu. Mais la lumière de la révélation, la lumière de la foi est au-dessus de ce mode humain. Elle touche quelque chose de divin en nous. Et ce quelque chose de divin en nous ne peut s'expliciter que si mon intelligence va jusqu'au bout de ses possibilités. Donc, la métaphysique, l'être. Et ça, le Saint-Père l'explicite d'une façon très forte dans l'encyclique Fides et Ratio. Alors, ceci, c'est pour nous donner du courage d'entrer dans cette recherche de la substance et de l'acte. La première chose qu'on doit faire dans cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être en tant qu'être, le toon et on. Il faut réfléchir beaucoup là-dessus. cette affirmation d'Aristote, le tuon, ce qui est, en tant qu'il est ce qu'il est, en tant qu'il est être, non pas en tant que telle détermination, mais en tant qu'il est être. C'est ça le propre de la métaphysique. Et c'est pour ça que la métaphysique vient au terme. L'intelligence humaine ne peut pas aller plus loin. Mais grâce à la métaphysique, elle peut découvrir la nécessité de poser l'existence de Dieu. Et c'est ça qu'il y a de plus grand pour l'intelligence humaine, poser la nécessité de la connaissance de Dieu et essayer d'expliciter ce que je peux connaître de l'être premier, de la personne divine. Donc, la première chose à faire dans ces interrogations sur l'être, c'est de montrer que l'interrogation « en quoi est l'être ?» revient à l'interrogation « qu'est-ce que l'être ?» Autrement dit, il n'y a pas de découverte de l'être comme matière. Et ça, c'est très important de bien voir ça, parce qu'on y retombe tout le temps. Toutes vos expériences, c'est d'une réalité sensible. Vous n'avez aucune expérience directe de votre âme spirituelle. De votre âme spirituelle comme esprit séparé. Vous avez l'expérience du spirituel engagé dans la matière. Ça oui, vous avez l'expérience du spirituel dès la moindre expérience artistique. La moindre expérience artistique. Vous avez l'expérience du spirituel engagé dans la matière. La queue de la vache ne peut pas faire un tableau, puisque ça fait partie des recherches modernes. Non. L'animal comme tel ne sait pas ce que c'est que l'art. Et c'est pour ça que l'art, c'est déjà l'éveil d'une intelligence. Je dirais, puisque l'art existe, la métaphysique existe. Ça, ce serait très, très important pour nous de voir ça, parce qu'on peut se dire de temps en temps, mais pourquoi la métaphysique à notre époque ? On serait les seuls à faire de la métaphysique, est-ce qu'il faudrait encore la faire ? Mais oui, je ne fais pas la métaphysique premièrement pour communiquer la vérité. Je fais la métaphysique pour premièrement découvrir la vérité. Ensuite, on verra comment la transmettre. C'est un autre problème. Hein. Mais le premier problème, c'est d'être intelligent. Mon intelligence s'éveille avec la recherche de l'être. Mon intelligence s'éveille comme intelligence. Mon intelligence s'éveille d'abord par l'art. Premier éveil de l'intelligence. Et ça, on le voit chez des gosses. Premier découverte de l'intelligence. C'est l'art. Et c'est très important de développer cela. C'est pour ça que les Grecs comprenaient qu'il fallait, pour les enfants, vraiment, la première chose qu'on peut faire pour eux, c'est ça. C'est pas les mathématiques, c'est l'art. Et alors, ce serait intéressant de réfléchir sur une civilisation grecque qui commençait par l'art, une civilisation du 3e siècle, le 3e millénaire qui commence par les mathématiques. Alors, vous voyez toutes les conséquences. Les mathématiques ne nous permettent pas de dépasser l'homme. On reste dans le possible. L'art, qui est la petite fronde de David, l'art, c'était un artiste, David, en se servant de la fronde. L'art peut être contre Goliath. Et l'art contre Goliath, c'est la qualité en face de la quantité. La fronde de David, c'est pas grand-chose à côté de Goliath. À côté de ce qui se fait aujourd'hui par les mathématiques, c'est pas grand-chose la métaphysique. C'est rien du tout. Alors, on a la tentation de dire oui, tout le monde aujourd'hui se laisse prendre par les mathématiques. Donc, soyons en mathématiques les premiers. C'est un raisonnement qui est le raisonnement fondamental de ceux qui nous dirigent humainement aujourd'hui. Alors, c'est intéressant de savoir et de le comprendre et de le retrouver au tournant. C'est très important les mathématiques pour la technique. C'est très important les mathématiques pour aujourd'hui être armé contre ces développements du possible. C'est très important. Mais c'est important comme instrument pour dominer la matière. Les mathématiques ne dominent pas l'esprit, mais dominent l'esprit en tant qu'il est uni à la matière. Il faut saisir ça pour ne pas se laisser prendre par les séductions. C'est la grande séduction du démon, ça. Le démon aime les mathématiques. Pas du tout pour les mathématiques. Il aime les mathématiques pour fourvoyer l'humanité et la faire perdre par son orgueil de construire des choses toujours plus grandes. Il n'y a pas de limite. On peut aller toujours plus loin. Il y a une limite, c'est la résistance des matériaux. Mais la résistance des matériaux, on peut toujours l'augmenter. C'est quantitatif. Je crois que c'est très très important de saisir ça. L'art a l'immense avantage. C'est que l'art sauvegarde les sensibles propres. Les mathématiques, c'est les sensibles communs. C'est une petite distinction qu'Aristote a fait pour répondre à Platon. Au fond, Platon n'a pas saisi les sensibles propres. Au moins le premier Platon, peut-être, dans la conversion de Platon, c'est-à-dire au moment où Platon s'est mis à se critiquer, le Parménide. C'est un moment très important pour ceux qui étudient Platon. C'est de voir cette autocritique de Platon. Et à partir de là, les sensibles propres réapparaissent. Alors, il faut arriver au plan métaphysique à discerner les sensibles propres des sensibles communs pour bien comprendre pourquoi l'art est une chose si importante pour sauvegarder une pensée intelligente et non pas tomber dans une pensée humaine. Vous voyez la différence, hein ? L'humain qui se contente d'être toujours l'humain ne vole pas très haut. L'humain a la possibilité de développer l'intelligence qui peut être surhumaine. Nous avons en nous quelque chose de surhumain, l'intelligence. Le développement de l'intelligence peut aller jusqu'à Dieu, affirmer que Dieu existe. Nous possédons en nous une capacité de nous poser la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Et en posant la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je suis sur la voie des sensibles propres. Et donc l'art. Me met sur cette voie. Le peintre capte les sensibles propres. L'ouïe dans la musique capte les sensibles propres. Et quand il ne saisit plus que les sensibles communs, ça devient la grosse fanfare. Et exactement comme le peintre, quand il ne saisit plus que les sensibles communs, ça devient un art selon l'extension. Ça perd ses qualités. Et il y a toujours la tentation, parce que la matière est source des sensibles communs. C'est la matière et la quantité. La quantité est source des sensibles communs. Et la quantité, dans le monde matériel, s'impose à moi comme la chose la plus lourde, la plus massive. Une distinction donc capitale à faire des sensibles propres et des sensibles communs. Alors, visuellement, c'est facile à faire cette distinction. Le sensible commun peut être mesuré. Le sensible propre ne se mesure plus. Alors, ça nous permet tout de suite de discerner ça. Le sensible commun se mesure, et en le mesurant, on le domine. Je me sers de la quantité en la mesurant. En mesurant la mer, en ayant un petit seau qui contient 1 litre d'eau, je peux mesurer la mer par ce petit instrument en disant « La mer, c'est tant de bouteilles. » Et c'est massif. C'est tellement tant de bouteilles que vous voyez, c'est l'infini de la bouteille. Je n'arriverai jamais à mettre la mer dans la bouteille. Chaque fois, je viderai ma bouteille, je reprendrai, je n'arriverai jamais. Vous voyez, l'infini est d'ordre quantitatif. Mais c'est pas Dieu, hein? C'est l'infini. Il y a des réserves infinies. Quand le savant crie en disant « Attention, les réserves d'eau, les grandes réserves d'eau, vu l'importance de l'eau, diminue. » Ah, ça, c'est le cri d'alarme. Mais c'est de l'ordre de la quantité, hein. C'est pas de la qualité, c'est de la quantité. Cette espèce de domination qu'on a sur l'univers aujourd'hui, l'univers, au point de vue quantité, montre qu'il est limité. C'est très curieux comme expérience. Et c'est une expérience qu'on fait aujourd'hui et qui est propre à notre temps. Il y a 200 ans, on en dit c'est infini. Non ? Il y a un cri d'alarme. Et on ne peut pas aller en arrière. Hein. Ce qui est terrible dans le progrès technique, c'est qu'on ne peut pas arrêter. Le progrès technique demande d'aller toujours de l'avant et d'être toujours plus efficace. C'est le propre de la quantité. Tandis qu'au contraire, les sensibles propres, les qualités des sensibles propres, ne se mesurent pas. On les connaît. On ne mesure pas le rouge. On voit toutes les modalités du rouge. On ne mesure pas le blanc. On ne mesure pas le son aigu ou grave, les notes. C'est très curieux. Elles s'imposent. On les connaît, on ne les connaît pas. Alors, très vite, on les dépasse pour être dans un domaine qu'on mesure. Donc la première chose qu'il faut faire au point de vue métaphysique, c'est de comprendre à la question « en quoi est l'être ?» Cette question est née à partir de l'être physique. En quoi est l'être ? En bois. Oui, l'être ici est en bois. Mais l'être en bois, c'est pas l'être. C'est une modalité quantitative de l'être. Et l'être n'est pas en bois, puisque j'ai découvert que mon intelligence était au-dessus de tout ce qui est quantitatif. Mon intelligence atteint l'universel. Et dans toutes les langues, j'exprime l'universel, le mot, le genre, la différence spécifique, la définition. Je saisis quelque chose qui est au-dessus de la quantité et j'arrive à distinguer sensible propre, sensible commun. Alors, je m'aperçois que la première question, en quoi, n'a pas de sens par rapport à l'être. En quoi est l'être? C'est ramener l'être à l'être matériel qui peut se mesurer. En quoi est l'être? En bois, en fer. Mais c'est pas l'être, ça. C'est l'être matériel. Or, ce que je veux savoir, c'est ce qu'est l'être en lui-même. Je vois que l'être matériel, c'est une réalisation de l'être. Et dans cet être matériel, l'être est toujours donné dans le devenir. C'est ça qui est important. La matière est source de tout devenir. Et l'être matériel est l'être du mouvement. Or, la métaphysique pose l'être au-delà du devenir. Ça a mis très longtemps à arriver à distinguer l'être et le devenir. Ça a mis très longtemps. Et ça met encore beaucoup de temps pour chacun d'entre nous. La première connaissance que nous avons de l'être, comme gosse, comme enfant, et quelquefois on reste enfant jusqu'à la fin de ses jours, c'est de connaître l'être en mouvement, en devenir. L'être qui a une histoire, c'est l'être en devenir, c'est l'être qui change. C'est l'être qui se modifie. Mais l'être en mouvement, c'est autre chose que l'être. Le devenir n'explique pas l'être, il le suppose. Et on regarde autre chose que l'être quand on regarde l'être en devenir. Le devenir de l'être. Le devenir de l'être, ce n'est pas l'être. Il y a là une première distinction absolument capitale. Parce que nos sensibles, nos sens, saisissent l'être sensible. Et l'être sensible, c'est l'être lié à la matière. Et l'être sensible est toujours lié au devenir, au mouvement, toujours. Donc, ce que vous connaissez en premier lieu, c'est le devenir. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que l'histoire nous intéresse toujours beaucoup. Parce qu'elle nous est comme naturelle. Et qu'elle nous intéresse, l'être en devenir nous intéresse tellement qu'on a beaucoup de peine à le quitter, à le dépasser, à voir que l'être en mouvement, c'est une modalité particulière de l'être, mais ce n'est pas l'être. Quand vous dites ceci est, vous voulez exprimer autre chose que son devenir. Mais vous voyez que dans toutes les réalités que vous touchez, que vous voyez, que vos sens atteignent, l'être est lié au devenir. Il n'est pas séparable du devenir. Mais lorsque j'ai découvert l'âme, la philosophie du vivant est avant la métaphysique, hein. Lorsque j'ai découvert l'âme, j'ai découvert en moi un principe, quelque chose, une réalité profonde qui, elle, n'est pas liée au corps. L'âme qui donne au corps sa subtilité. Le corps de l'homme n'est pas le corps de l'animal. Quand vous touchez une vache, vous ne dites pas « Ah, c'est mon corps ». Non. Vous mangez de la vache, tandis que du corps humain, non. Le corps humain est animé par l'âme. Et l'âme représente un mode particulier d'être. C'est pour ça que c'est si important de découvrir l'âme. Parce qu'en découvrant l'âme, vous découvrez la distinction devenir et être. L'âme est source de tout le devenir, de toute ma croissance. Ça, c'est sûr. Mais mon âme est plus que cela par l'intelligence. L'intelligence est capable de poser l'universel. L'être universel est au-delà du singulier. Il est au-delà de la quantité. Il y a l'intentionnalité universelle. L'intelligence est capable de saisir un au-delà. Donc, l'être n'est pas fixé à la matière. L'être matériel est une espèce d'être, une catégorie particulière dans l'être. Ceci redevient aujourd'hui extrêmement important. Parce que cette distinction être et devenir tend à se perdre, mais complètement. Aujourd'hui, des quantités de qui se disent philosophes ne font pas la distinction entre être et le devenir. Je vous disais, une des choses les plus curieuses que j'ai remarquées quand j'allais écouter mes frères qui passaient leur doctorat en Sorbonne, c'était de voir que les examinateurs, les professeurs qui faisaient passer, ne comprenaient pas ce que c'est que le jugement d'existence. Ceci est. Ça les intriguait terriblement. J'étais en face d'eux, ils me regardaient. Et il dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par ce jugement d'existence, ceci est ? Et quand je dis ceci est, je dis, c'est autre chose que ceci est en mouvement. Et on n'arrive plus à distinguer les deux. Alors, vous faites cette distinction constamment. Mais vous ne la faites pas en philosophe. Et le philosophe doit expliquer ça. Quand vous dites ceci est, vous ne dites pas ceci est mu. Ceci devient. La différence entre l'âme intellectuelle, l'âme capable de vouloir, capable d'aimer, et puis mon âme dans mon corps. En philosophie du vivant, vous aboutissez à cette distinction capitale. Et cette distinction capitale montre que, en métaphysique, il n'y a pas de recherche de la matière. Pauvre métaphysique. Vous commencez tout de suite par le jugement d'existence, ceci est. Et en disant ceci est, vous vous placez au-delà de ceci devient, que ceci est en mouvement, que ceci vit. Vous faites la distinction entre vie et être. Et vous comprenez que ceci est capital. Parce que on peut dire qu'aujourd'hui, dans presque toutes les philosophies, on reste au niveau de la vie et on n'atteint pas le niveau de l'être. On l'atteint, mais par la vie. On ne distingue plus le vivant et l'être. Ceci est vivant, ceci est. Parce que, en effet, ceci est, mais toujours donné à travers le mouvement, à travers la vie. Alors, il y a une distinction qui est capitale à faire aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce que c'est que la métaphysique. La philosophie du vivant regarde le vivant et dans le vivant, je distingue âme et corps. En philosophie métaphysique, je distingue ceci est et le mouvement. Et je laisse de côté tout ce qui est source ou cause du mouvement. Ce n'est pas le mouvement qui m'intéresse. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui, la métaphysique n'ait plus beaucoup de cours, parce qu'on est tout le temps dans le mouvement. On est tout le temps dans l'histoire. L'histoire a pris une importance énorme dans la culture. Vous voyez, ça a pris une très grande importance. Et ça, c'est relativement moderne, si j'ose dire. Vous voyez la manière dont Aristote traite de l'histoire. C'est très important de voir ça. Mais là, on voit tout à fait le regard d'Aristote sur l'histoire. Aristote considère que l'art est beaucoup plus éducatif que l'histoire. Parce que dans l'art, on touche la réalité. Dans l'histoire, je ne touche pas la réalité. Je touche quelque chose qui a existé, mais qui n'existe plus. Donc j'enterre les morts. Ou je les déterre. Mais c'est mort. Ce n'est plus vivant. Alors, si je ne fais plus que de l'histoire tout le temps, j'oublie ce que c'est que le vivant. Et je regarde plus que les témoignages du vivant. Et j'arrive à considérer que la seule chose importante, c'est de regarder les témoignages. Qu'est-ce qu'on dit de vous ? La question de Jésus. Qu'est-ce qu'on dit de moi ? Alors, le point de vue historique, le point de vue du devenir, ça c'est capital. On soigne ça. On soigne son image, ce que les autres disent de vous. Mais est-ce que Dieu s'occupe de ça ? Si Dieu existe. Non, il s'occupe de ce qui est. Premièrement, l'homme s'occupe premièrement de ce qui devient, de ce qui est vivant, de l'histoire. Et comme c'est très vaste, l'histoire de l'Église. Hein. 2 siècles. 2 millénaires, je veux dire. C'est énorme. L'histoire de 2 millénaires. Alors, c'est tellement grand qu'on ne voit plus que ça. Et on oublie, ah, le devenir très bien, c'est très intéressant. La culture, c'est très intéressant. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est ce qui est. Parce que ça, c'est fondamental. Dieu n'est pas dans le devenir. Dieu est uniquement dans l'être. Si Dieu existe, il n'est que dans l'être. Or, le philosophe veut aller jusqu'au bout. Il voit très bien que s'il ne regarde que le devenir, il s'arrête à l'homme. Il s'arrête à l'homme, là, la vie de l'homme, sa vie. Mais il y a autre chose, il est. Vous voyez, je crois que pour chacun d'entre nous, il faut que nous fassions cette découverte. Nous arrivions à la faire. Parce que si on ne la fait pas durant les études, vous ne la ferez jamais dans votre vie. Sauf si à 40 ans, vous mettez un philosophe ou métaphysicien. Ça existe. Mais c'est important. Parce que vous comprenez, la théologie, c'est tout regarder comme Dieu le regarde. Or, est-ce que Dieu a un regard d'historien ? Le regard du métaphysicien est beaucoup plus proche du regard de Dieu que le regard d'historien. Vous voyez, posez-vous ces questions-là en vérité pour comprendre l'intérêt de la métaphysique. Et comprenez que en métaphysique, on ne déterre pas des morts. En métaphysique, on regarde celui qui est. Donc, c'est peut-être un vivant, tant mieux, il est. Il est plus parfaitement qu'un non-vivant. Je suis plus parfait vivant qu'un mort. Parce que lui ne vit plus. J'arrive à regarder l'être et je vois très, très nettement que le devenir est commandé par la causalité matérielle. La source de tout devenir, c'est la matière. Et dès que je cherche l'être en tant qu'être, je suis au-delà de la matière. Au-delà de la matière, c'est-à-dire, je suis en face de la forme. Première distinction, matière-forme. Qui est la grande distinction de la philosophie du vivant. Et je me place au-dessus de cette distinction. C'est-à-dire que la matière, je la laisse pour la philosophie de la nature, pour la philosophie du vivant. Pour la philosophie du vivant, la matière est capitale. Mais pour la métaphysique, non. La métaphysique ne commence que quand je suis au-delà de la matière et que j'atteins l'être. Ça ne veut pas dire que le devenir n'est pas. Faisons attention, hein. Parce que très facilement, on dit ça. Ah, vous regardez au-delà du venir. Alors, pour vous, le devenir, c'est rien. Pour vous, l'histoire n'est rien. Pour vous, il n'y a que l'être qui vous intéresse. Pas du tout. Je sais que mon être est vivant et un être historique. Mais la métaphysique veut dépasser l'historicité de mon être, l'aspect mouvement de mon être, et saisir ce qu'il est, en tant qu'il est. Et vous voyez, le « en tant qu'il est » refuse la matière, refuse le devenir, refuse l'histoire. L'histoire ne fait pas connaître l'être. Le devenir ne me fait pas connaître l'être. L'être est plus radical. Il est. Il est en tant qu'être. Dans tout être qui est en devenir, qui devient, puisque il est, cette question « qu'est-ce qu'il est ?» en tant qu'être, vaut. Qu'est-ce qu'il est en tant qu'être? Qu'est-ce qu'il est dans son mouvement? Ah, c'est la matière. La métaphysique ne supprime pas la philosophie de la nature. La métaphysique ne supprime pas la philosophie du vivant. La métaphysique se situe au-delà. Elle regarde ce qui est. C'est très important pour nous, ça, de nous poser la question avec netteté. Nous pouvons très bien refuser de faire de la métaphysique, je comprends très bien, puisque aujourd'hui, la métaphysique prend un sens tellement vague. Mais la vraie métaphysique, c'est considérer l'être en tant qu'être. Toute chose, du point de vue de l'être, et de laisser de côté le devenir, laisser de côté la croissance. Je veux regarder ce qui est, en tant qu'il est. Donc, avoir un regard très net sur la question métaphysique. Ce que le métaphysicien cherche et ce qu'il ne cherche pas. Ce que le métaphysicien veut dire et ce qu'il ne veut pas dire. Il a parfaitement le droit. La métaphysique a existé. Aristote en est le premier maître, et peut-être le dernier, en est le premier maître. Pourquoi Thomas d'Aquin est-il revenu à Aristote? C'est parce que Aristote cherchait l'être en tant qu'être, et que Pierre Lombard ne le cherchait pas assez. Il restait au vivant, il restait à l'histoire, il restait au devenir. Il ne saisissait pas avec cette netteté ce qui est en tant qu'être. Et pour nous, cela doit être d'une très grande netteté. Alors vous allez me dire, alors pourquoi qu'on fait ça si plus personne ne le fait? Le pape nous le demande. C'est suffisant, hein? Oh, le pape, il est vieux. Donc il montre que ce qui était très nécessaire avant au Moyen-Âge n'est plus nécessaire aujourd'hui. Est-ce que l'être comme être a-t-il changé depuis le Moyen-Âge? Le devenir a changé beaucoup. L'histoire a changé beaucoup. Mais l'être, ce qu'est l'homme en tant qu'être, non. C'est l'intelligence qui est au-delà du devenir, qui est au-delà de l'histoire, et qui veut se nourrir, parce qu'elle ne se nourrit que par l'être. Mon intelligence ne peut se nourrir que si elle regarde l'être des choses.